Bonjour, ici Marc, bienvenue au 67e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse, l'enseignement de l'obéissance aveugle. À la fin du dernier épisode, sur les expériences du Dr Milgram, Lark & Rose disait que ces résultats ne devraient pas surprendre quiconque a examiné la façon dont la plupart des êtres humains sont élevés. C'est le sujet de cet épisode, et il me tient particulièrement à cœur, parce que voir faire du mal aux enfants me fâche plus que tout le reste, et ça me révolte que ça se passe chaque jour dans chaque école. Je veux qu'on le voie pour y mettre fin. Enfant, j'adorais aller à l'école, parce que j'y passais de bons moments avec mes amis. On rigolait bien, même pendant la plupart des cours. C'était une école privilégiée, le lycée Razi à Téhéran, en Iran, où les cours étaient en français pour les enfants des francophones en poste là-bas et les enfants des Iraniens qui parlaient français. Tout ce qui vient d'Europe est généralement très bien considéré en Iran, et cette école était un lieu en marge de la société, moins soumise aux règles iraniennes et, du fait de la distance, moins soumise aussi aux règles françaises. Un espace de relative liberté, même si ça restait l'école. J'ai nettement vu la différence ensuite, à 13 ans, en arrivant à l'école en France. Ce n'est qu'à l'école aux États-Unis, à 18 ans, que j'ai retrouvé un peu de cette liberté, mais seulement parce que j'étais étudiant d'échange, et donc encore une fois avec un statut à part. Au total, j'avais une bonne image de l'école quand mon aîné a eu l'âge d'y aller. D'ailleurs, j'étais même marié à une prof. Mais en voyant comment les enfants étaient traités en maternelle en France, en voyant à quel point c'était contraire à tous les principes de respect et d'autodétermination dont parlaient les livres que je lisais sur comment élever ses enfants, c'était clair pour moi qu'il fallait que je protège mes enfants de ça. Et pendant une dizaine d'années, ils ne sont pas allés à l'école. On a fait de l'unschooling, c'est-à-dire les laisser choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de leur temps. J'ai toujours travaillé chez moi, donc j'étais là en cas de besoin. Ils se sont très bien débrouillés, et avec 10 ans de recul maintenant, je vois encore mieux comment ça leur a été bénéfique. Mon regret, c'est que je ne savais pas que j'avais des traumatismes de l'enfance non soignés, comme la plupart des gens il me semble, et mes enfants en ont souffert. Et aussi, avant de rencontrer la communication non violente, je pensais et je m'exprimais en accusant l'autre, plutôt qu'en examinant ce qui se passe en moi-même, ce qui a tellement envenimé les discussions avec leur mère au sujet de ce qu'il vaut mieux faire pour les enfants, que ça a entraîné une séparation dont on a tous souffert. Bref, pour dire que l'endoctrinement des enfants est pour moi le pire du pire, puisque ça empêche des générations entières de développer leur potentiel, et ma priorité est d'aider plus de monde à s'apercevoir à quel point c'est contraire à ce qu'on veut tous pour l'humanité. Sous prétexte d'apporter des connaissances utiles, on leur fait croire qu'ils ne peuvent pas apprendre sans quelqu'un pour les guider, et qu'ils ne sont même pas capables de trouver par eux-mêmes ce qu'il est bon pour eux d'apprendre. Même si les adultes concernés pensent bien faire, ça reste totalement faux. Il est évident que personne ne peut choisir à la place de quelqu'un d'autre, et faire croire cela fait des ravages terribles. Dès que suffisamment d'entre nous seront conscients de ce qui se passe, ça ne pourra plus continuer, comme on verra plus loin dans le livre. Voici donc le chapitre d'aujourd'hui. L'enseignement de l'obéissance aveugle. Le but prétendu des écoles est d'enseigner la lecture, l'écriture, les mathématiques et d'autres domaines académiques de la pensée. Mais le message que les institutions d'éducation enseignent en réalité, bien plus efficacement que n'importe quelle connaissance ou compétence utile, est l'idée que la soumission et l'obéissance aveugle à l'autorité sont des vertus. Il suffit de considérer l'environnement dans lequel la majorité des gens passent la majeure partie de leurs années de formation. Année après année, les élèves vivent dans un monde dans lequel ils reçoivent approbation, louanges et récompenses pour être là où l'autorité leur dit d'être, quand l'autorité leur dit d'y être, et ils reçoivent désapprobation, reproches et punitions s'ils sont ailleurs. Ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils font ce que l'autorité leur dit de faire. Ils sont désapprouvés, réprimandés et punis s'ils font autre chose ou s'ils ne font pas ce que l'autorité leur dit de faire. Ils reçoivent approbation, louange et récompense pour parler quand et de la façon dont l'autorité leur dit de parler, et reçoivent désapprobation, reproches et punitions pour parler à tout autre moment, de toute autre manière ou sur tout autre sujet que celui dont l'autorité leur dit de parler, ou pour ne pas parler quand l'autorité leur dit de parler. Ils sont approuvés, félicités et récompensés pour avoir répété les idées que l'autorité déclare être vraies et importantes, et sont désapprouvés, réprimandés et punis pour avoir été en désaccord, verbalement ou dans un test écrit, avec les opinions de ceux qui se réclament de l'autorité, ou pour avoir pensé ou écrit sur des sujets autres que ceux sur lesquels l'autorité leur demande de penser ou d'écrire. Ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils signalent immédiatement à l'autorité les problèmes ou les conflits personnels qu'ils rencontrent, et sont désapprouvés, réprimandés et punis lorsqu'ils essaient de résoudre les problèmes ou de régler les différends par eux-mêmes. Ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils se conforment aux règles, même arbitraires, que l'autorité décide de leur imposer. Ils reçoivent la désapprobation, le reproche et la punition pour avoir désobéi à ces règles. Ces règles peuvent concerner presque tout, y compris les vêtements à porter, les coiffures à arborer, les expressions faciales à avoir, la façon de s'asseoir sur une chaise, ce qu'il y a sur un bureau, la direction à prendre et les mots à utiliser. Ils sont approuvés, félicités et récompensés lorsqu'ils signalent à l'autorité qu'un autre élève a désobéi aux règles, et ils sont désapprouvés, réprimandés et punis s'ils ne le font pas. Les élèves voient clairement et immédiatement que dans leur monde, il y a deux classes distinctes de personnes, les maîtres, professeurs, et les sujets, élèves, et que les règles de bonne conduite sont radicalement différentes pour ces deux groupes. Les maîtres font constamment des choses qu'ils disent au sujet de ne pas faire. Diriger les gens, contrôler les autres par la menace, s'approprier les biens d'autrui, etc. Ce double standard constant et évident enseigne au sujet qu'il existe un standard de moralité très différent pour les maîtres et pour les sujets. Les sujets doivent faire tout ce que les maîtres leur disent de faire et seulement ce que les maîtres leur disent de faire, alors que les maîtres peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas si longtemps, les maîtres commettaient même régulièrement des agressions physiques, c'est-à-dire des châtiments corporels, contre les sujets qui ne faisaient pas rapidement et sans discuter ce qu'on leur demandait, tout en disant aux sujets qu'il était totalement inacceptable que eux aient jamais recours à la violence physique, même en cas d'autodéfense, surtout en cas d'autodéfense contre les maîtres. Heureusement, le recours à la violence physique manifeste par les enseignants est devenu rare. Cependant, bien que l'usage de la force soit devenu moins évident, les méthodes de base du contrôle autoritaire et de la punition demeurent. Dans une salle de classe, l'autorité peut modifier les règles à volonté, punir l'ensemble du groupe pour les actes d'un seul élève et interroger ou fouiller n'importe quel élève ou tous les élèves à n'importe quel moment. L'autorité n'est jamais considérée comme ayant l'obligation de justifier ou d'expliquer aux élèves les règles qu'elle édicte, ni quoi que ce soit d'autre qu'elle fasse. Et l'autorité ne se préoccupe pas de savoir si un élève a de bonnes raisons de penser que son temps serait mieux utilisé s'il était ailleurs, s'il faisait quelque chose d'autre ou s'il pensait à autre chose. Les notes que l'élève reçoit, la façon dont il est traité, les signaux qu'il reçoit, écrits, verbaux et autres, dépendent tous d'un seul facteur, sa capacité et sa volonté de soumettre sans réserve ses propres désirs, jugements et décisions à ceux de l'autorité. S'il le fait, il est considéré comme bon. Dans le cas contraire, il est considéré comme mauvais. Cette méthode d'endoctrinement n'est pas le fruit du hasard. L'enseignement aux États-Unis, et en fait dans une grande partie du monde, a été délibérément modelé sur le système prussien d'éducation, conçu dans le but exprès de former les gens à devenir des outils obéissants de la classe dirigeante, faciles à gérer et promptes à obéir sans réfléchir, en particulier à des fins militaires. Comme l'expliquait Johann Fichte, l'un des concepteurs du système prussien, l'objectif de cette méthode était de façonner l'élève de telle sorte qu'il ne puisse pas vouloir autre chose que ce que les autorités veulent qu'il veuille. À l'époque, le système était ouvertement reconnu comme un moyen d'asservir psychologiquement la population à la volonté de la classe dirigeante. Et c'est exactement ce qu'il continue de faire partout dans le monde, y compris aux États-Unis et en France. La raison pour laquelle la plupart des gens font tout ce que l'autorité leur dit de faire, même si l'ordre n'est ni moral ni rationnel, est parce que c'est exactement ce qu'ils ont été formés à faire. Tout ce qui concerne la scolarisation autoritaire et l'éducation autoritaire, même la version moderne qui prétend être bienveillante et ouverte d'esprit, martèle continuellement dans la tête des jeunes l'idée que leur succès, leur bonté, leur valeur même en tant qu'être humain, se mesurent à la façon dont ils obéissent à l'autorité. Faut-il s'étonner alors que, plutôt que d'appliquer la logique aux observations et de parvenir à leurs propres conclusions, la plupart des adultes cherchent une autorité pour leur dire ce qu'ils doivent penser ? Faut-il s'étonner que, lorsqu'un homme portant un badge commence à aboyer des ordres, la plupart des adultes obéissent timidement sans poser de questions, même s'ils n'ont rien fait de mal ? Faut-il s'étonner que la plupart des adultes se soumettent docilement aux interrogatoires et aux fouilles que les forces de l'ordre veulent leur infliger ? Faut-il s'étonner que de nombreux adultes se précipitent vers l'autorité la plus proche pour résoudre un problème ou régler un différend ? Faut-il s'étonner que la plupart des adultes se conforment à n'importe quel ordre, aussi irrationnel, injuste ou immoral soit-il, s'ils considèrent que celui qui donne l'ordre est l'autorité ? Est-ce que cela est surprenant si l'on tient compte du fait que presque tout le monde a été expressément formé pendant de nombreuses années à se comporter de cette manière ? Les expériences du Dr Milgram ont clairement montré que les adultes qui sont produits, même par notre société moderne prétendument éclairée, ces adultes sont pour la plupart comme des outils insensibles, irresponsables et irréfléchis à la disposition de tout mégalomane qui revendique le droit de gouverner. Et c'est le cas dans ces bons vieux États-Unis, ce bastion supposé de la liberté et de la justice. Tout comme en France, le pays supposé de la liberté et de l'égalité. Lorsque le peuple est intentionnellement entraîné à se soumettre docilement à la bête appelée « autorité », lorsqu'on lui enseigne qu'il est plus important d'obéir que de juger par soi-même, pourquoi devrions-nous nous étonner de l'extorsion, de l'oppression, du terrorisme et des meurtres de masse qui sont commis simplement parce qu'une autorité autoproclamée l'a ordonné? Toute l'histoire de l'humanité rend la recette mortelle suivante aussi évidente que possible. Prenez quelques dirigeants malveillants, ajoutez de nombreux sujets obéissants, et voilà, vous obtenez injustice et oppression généralisée. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse, comment fabriquer des monstres ?»